Chapitre 9. Au royaume de la femme pâle. La religion des prophètes blancs n'a jamais connu une grande diffusion dans les contrées du Nord, mais elle a fourni pendant quelque temps un passe-temps fort amusant à la noblesse de la cour jamaïlienne. Le gouverneur Esclépius se passionnait pour les ouvrages prophétiques et dépensait des sommes énormes auprès des marchands qui lui apportaient des copies de ses rares manuscrits, qu'il confiait ensuite aux prêtres de Sa, afin d'en produire de nouveaux exemplaires. On dit qu'il consultait souvent ses textes de la façon suivante. Après avoir fait une offrande à Sa, il posait sa question et choisissait un passage au hasard. Il méditait alors sur cet extrait jusqu'à ce qu'il eût le sentiment d'avoir trouvé réponse à ses interrogations. Ses courtisans, toujours soucieux de singer leur monarque, ne tardèrent pas à se procurer des copies des prophéties blanches et à les employer à sa manière. Cette distraction jouit d'une grande popularité jusqu'au jour où le grand prêtre de Sa se mit à dénoncer cette pratique comme la porte ouverte à l'idolâtrie et au blasphème. Il exigea qu'on réunisse les manuscrits qui finirent détruits ou remis à la garde exclusive du clergé. La rumeur veut néanmoins que l'intérêt du gouverneur pour ses écrits joua un grand rôle dans l'aide qu'il offrit à un jeune garçon au teint étrangement pâle qui avait réussi, malgré les obstacles, à obtenir une audience avec lui. Impressionné par le naturel avec lequel il citait les textes sacrés et persuadé, par son interprétation de plusieurs versets, que son secours était prédit de longue date, le gouverneur lui permit d'embarquer sans frais à bord d'un transport d'esclaves à destination de Chalcède. Les croyances des pays du Sud. Auteur inconnu. Je revins à la conscience à deux reprises avant de parvenir à m'y accrocher. La première fois, on me traînait par les bras le long d'un couloir de glace. La deuxième, je me réveillais sur le ventre tandis qu'on me liait les mains dans le dos. La troisième, des gardes me traînaient à nouveau. Malgré la douleur qu'il m'en coûta, je me cramponnais à ma lucidité. Nous venions d'entrer dans une salle digne d'un palais. Creusée dans le ventre du glacier, elle présentait de larges colonnes, bleues et cannelées, laissées pour soutenir le haut plafond. Sur les murs, des bas-reliefs représentaient une femme, toujours la même, dans des scènes empreintes de majesté, une épée à la main, à la proue d'un navire, les cheveux flottant au vent, dressée au milieu de ses ennemis terrassés, un pied sur la gorge d'un homme, assise sur un trône rendant la justice, le doigt pointé sur les scélérats qui ployaient l'échine devant elle. Toutes les sculptures la montraient plus grande que nature, dominatrice, en courroux et implacable. Nous avions pénétré dans le royaume de la femme pâle. Pourtant, même au cœur de son domaine, elle avait un rival. À travers le plafond transparent, par-delà le flou bleuté de la glace épaisse, je distinguais enfin le contour entier de celui que j'étais venu voir et pour qui j'avais parcouru un si long chemin. Nos tours et détours par les couloirs glacés nous avaient menés en dessous du dragon. Il me semblait même discerner un rectangle vaguement lumineux, témoin de nos pitoyables travaux d'excavation. Nos amis poursuivaient-ils leurs efforts pour atteindre le dragon? De toute façon, tenter de les appeler ne servirait à rien. Autant vouloir se faire entendre à travers, non une, mais trois ou quatre épaisseurs de murailles. Des dizaines de disciples de la femme pâle s'étaient assemblés pour nous voir conduire devant elle. D'énormes globes blancs qui pendaient au bout de chaînes couvertes de glace éclairaient la salle d'une lumière bleue qui n'avait rien de naturel. Emmitouflés dans des pelisses et des fourrures, les guerriers outriliens semblaient des nains dans l'écrasante immensité du palais cristallin. Ils nous regardaient en silence, la mine austère, tandis que nous passions devant eux, tirés par les poignets. Des taches noires dissimulaient la marque de leur clan d'origine. Quelques-uns arboraient leur allégeance à leur nouveau chef sous la forme d'un dragon ou d'un serpent tatoué. Ils ne paraissaient animés d'aucune haine ni d'aucune passion. L'insensibilité que je percevais en eux dépassait la résignation pour s'apparenter à cette acceptation de la souffrance qui est généralement le propre des animaux maltraités. Même mon vif ne captait quasiment rien d'eux, et je me demandais si leur maîtresse avait découvert un moyen de forgisation atténué, qui tranchait leur lien avec l'humanité mais leur laissait assez de crainte pour assurer leur obéissance. Je reconnus un visage dans la foule, celui d'Enya, la servante de la Narcesca à Castelser. Elle manifestait la même indifférence que ceux qui l'entouraient. Je tournai la tête. Oui, il s'agissait bien d'elle. Après son départ du château, je l'avais revue à Bourg de Castelser au moment où l'épi avait failli me tuer, puis dans les collines de l'île de Maïlé, alors qu'elle espionnait le prince et la Narcesca montée à dos de poney. Quel rôle jouait-elle? Je l'ignorais. Mais j'avais désormais la certitude qu'elle œuvrait depuis le début pour la femme pâle. Mon prince courait un aussi grand danger que moi-même. Je réussis tant bien que mal à me remettre sur pied, mais sans pouvoir suivre l'allure rapide de mes gardes. J'avançais en trébuchant entre eux, et quand ils s'arrêtèrent enfin et me jetèrent à genoux, je n'opposais aucune résistance. Je souffrais toujours d'étourdissement. Je n'avais qu'une envie, me reposer, quelle que fût ma position, et recouvrer quelque vigueur dans une immobilité bienheureuse. Je tentai de me tourner vers le fou et l'aperçus brièvement, agenouillé lui aussi, la tête pendante, à la poigne de deux hommes qui le tenaient inerte et soumis devant leur maîtresse. Puis, une gifle cuisante d'un de mes gardiens ramena mon regard vers celle dont nous étions prisonniers. Elle avait le teint blanc, comme le fou jadis, et sa chevelure dufteuse tombait sans poids sur ses épaules. Ses yeux délavés me rappelaient ceux de mon compagnon dans son enfance, et elle partageait les mêmes traits que lui, mais adoucis, féminins. Elle possédait une beauté surnaturelle, aussi froide que le palais qui nous entourait. Assise sur un trône sculpté dans la glace et couvert de fourrures blanches, d'ours, de renards et d'hermines dont la queue noire pendait aux accoudoirs, elle portait une robe de laine immaculée qui ne laissait rien ignorer des courbes de son corps. Un collier de fleurs d'ivoire ceignait sa gorge et au cœur des pétales scintillaient des diamants. Ses longues mains reposaient sur les fourrures des bras de son siège et des bagues d'argent ornaient ses doigts, montées de pierres blanches étincelantes. Elle nous regardait, à genoux devant elle, sans manifester ni satisfaction ni surprise. Peut-être, comme le fou, avait-elle prévu cette scène depuis toujours? Son trône se nichait au creux de la statue d'un dragon dormant en rond, ses ailes massives repliées contre ses flancs. La pierre de mémoire noire et argent formait une montagne luisante derrière elle, mais une montagne constituée de plusieurs blocs, sans doute apportée à grand-peine de la carrière à l'autre bout de l'île, puis soigneusement taillée pour s'assembler étroitement et composer une sculpture d'un seul tenant. On distinguait à peine les lignes de séparation. Toutefois, la taille énorme du monstre endormi, bien supérieure à celle de Vérité le Dragon, n'atteignait pas celle de Glacefeu. En outre, lisse et comme avachi sans le plus petit détail, il restait inachevé, brouillon plutôt que réalité. Au bout de son long cou incurvé, sa tête à peine dégrossie était posée comme un marchepied devant le siège surélevé de la femme pâle. Malgré ses yeux clos, il émanait de lui une cruauté qui me fit frémir. Mon vif désorienté captait des émotions conflictuelles, peur, haine, chagrin, convoitise, envie de vengeance, toute prisonnière de la pierre grossièrement taillée. La source de cette essence en devenir était évidente. Plusieurs outriliens, à bout de force, enchaînés contre ses flancs. Les captifs portaient les stigmates de la torture et des privations, moyens sans doute, par lesquels la femme pâle suscitait chez eux de profonds ébranlements dont elle pouvait tirer parti. Quand un clan d'art sculptait un dragon, afin d'en faire le réceptacle de l'esprit de ses membres, il y déversait ses émotions et ses souvenirs. Mais à quelle conscience imaginait-elle que s'éveillerait une créature nourrie des sentiments discordants de malheureux martyrisés? Quel pivot les unirait-il et donnerait-il un but au vol du dragon? Les créatures de pierre que j'avais vues résultaient de l'œuvre d'esprit entièrement consacrée à leur dessein et représentaient le couronnement des clans qui les avaient créés, pénétrés, d'une beauté sans rapport avec les formes insolites que chaque groupe d'artiseurs avait choisies pour la représenter. Même le sanglier ailé avait acquis de la grâce dans son envol. En revanche, c'était une mosaïque de souffrance qui composait la création de la femme pâle. Quel tempérament aurait un être pareil? Mon vif me disait que les prisonniers avaient déjà perdu leur humanité, arrachés par la forgisation et injectés de force dans la sculpture. Elle absorbait désormais l'horreur hébétée de créatures ravalées plus bas que des bêtes. Quel dragon allait-il en être, pétri de tant de douleurs, de haine et de cruauté? Entre les pattes antérieures du monstre se dressait un autre trône, également taillé dans la glace et drapé de fourrure, mais taché, corrodé par des immondices et des excréments humains. Une caricature d'homme s'y trouvait attachée. Les chevilles, les poignets et le cou pris dans des fers reliés par des chaînes à des anneaux profondément enfoncés dans le siège. Le personnage portait une couronne noire qui lui enserrait douloureusement la tête, comme fixée à son crâne, et une robe majestueuse mais crasseuse et en haillons. Des chaînes d'argent pendaient à son cou, et celles qui l'entravaient étaient incrustées de pierres précieuses, comme en une sinistre moquerie de son statut de prisonnier. La barbe et les cheveux longs, hirsutes et emmêlés, les ongles jaunes et sales, il avait l'extrémité des doigts et des orteils noircis par le gel. Des os rongés jusqu'à la dernière bribe de viande jonchaient le sol à ses pieds. L'un d'eux provenait peut-être d'un bras humain. Je détournai le regard, peu désireux d'apprendre ce dont on le nourrissait. Forgisé, mais pas complètement, il diffusait encore une haine brûlante. Peut-être ne lui restait-il pas d'autre émotion. Tout à coup, comme dans un membre paralysé qui revient à la vie, je sentis un étrange picotement d'art. Je tournai la tête pour mieux le percevoir, à la façon d'un homme qui s'efforce de localiser un bruit. Il ne devint pas plus clair, mais j'en détectai la source. Le roi, plein de rage, martisait. Un rictus dénudait ses dents jaunâtres et ses yeux caves étaient fixés sur moi. L'espace d'un instant, je subis le plein impact de sa haine. Puis, elle se dissipa. Non parce que je m'en protégeais, mais parce que ma capacité à l'apercevoir avait à nouveau disparu. Je poussai un soupir haché, effaré par la puissance de son art. Peut-être lourd aurait-il pu se mesurer à lui. Quant à moi, je m'en savais incapable. Je relevai péniblement la tête pour regarder la femme pâle et demeurai saisi en la voyant me sourire. Elle avait attendu que j'observe ce qui m'entourait et en tire mes conclusions. Elle désigna son roi captif d'une main longue et gracieuse.
Kébal Pincru. Mais vous aviez certainement deviné que seul mon bon à rien de catalyseur méritait une telle sanction, fit ce chevalerie loin-voyant. Allons, ne prenez pas cet air épouvanté. Je me contente d'achever ce que vos dragons des six duchés avaient commencé. Il s'est aventuré au dehors, son arc à la main pour tirer sur ceux qui passaient au-dessus de nous, mais leur passage a suffi à le dépouiller d'une grande partie de son intelligence. Il est vrai qu'il n'en avait guère, de toute façon. Il m'a été un instrument utile pendant un temps. Il avait de l'astuce, de l'ambition, et il connaissait la guerre et ses ficelles.
Elle se leva et descendit de son estrade en marchant sur la tête du dragon. Puis, elle se dirigea vers le roi pitoyable sur son trône souillé et le regarda.
« Toutefois, il m'a fait défaut. »
Elle tendit une main fine vers lui. Les narines du prisonnier s'évasèrent et il dénuda les dents comme pour la mordre. Elle secoua la tête d'un geste presque affectueux, comme devant un étalon trop fougueux pour qu'on se risque à le monter. Puis, elle lui demanda d'un ton suave.
« Veux-tu que je donne encore un peu de toi au dragon, mon beau? Cela te plairait-il ? »
Les yeux enfoncés du roi fou se plissèrent nerveusement comme s'il s'évertuait à retrouver un souvenir, puis il se recroquevilla peureusement, une épaule levée dans une attitude de défense. Un gémissement bas s'échappa de lui.
« Non. »
« Non, pas tout de suite, peut-être. Mais il finira par t'absorber tout entier, naturellement, et quand il ne restera rien à exprimer de toi, je te jetterai sur lui pour te voir te fondre lentement, lui. C'est bien ainsi que ça se passe, n'est-ce pas ?
Elle se tourna brusquement vers moi.
Au moment de l'éveil, ceux qu'on sacrifie aux dragons ne s'y intègrent-ils pas complètement ? Quand on offre vos clans d'art à un dragon, ne disparaissent-ils pas entièrement en lui ?
Je me tus, à la fois interloqué et désireux de ne rien lui révéler. À l'entendre, les clans étaient livrés en pâture aux dragons au lieu de se donner à lui de leur plein gré. Je ne tenais pas à la détromper. Avec un grondement, un de mes gardes leva sur moi un poing menaçant, mais la femme l'arrêta d'un claquement de doigts, en hochant la tête. Mon mutisme n'avait aucune importance. Elle reporta son regard sur le fou, toujours inconscient dans la poigne de ses sbires, et pour la première fois, un froncement de sourcils troubla la perfection de son visage de statue.
« Vous ne l'avez pas abîmé, j'espère. Je vous avais averti que je le voulais intact. Il s'agit de la plus grande curiosité du monde, de la créature la plus rare, un faux prophète blanc. Encore que cette épithète ne lui convienne plus guère. Regardez-le, tout bruni comme une fleur fanée. Est-il mort ?
Non, très haute dame, il a seulement perdu connaissance. »
L'homme s'exprimait d'un ton apeuré.
« Sûrement pas. Secouez-le un peu. Il possède la résistance d'un chat, et je gage qu'il se révélera aussi difficile à tuer. Ouvre les yeux, bien-aimé. Salue-moi d'un sourire et d'une révérence comme autrefois, quand tu n'étais qu'un enfant pâle et chétif. Ah, la jolie créature que tu faisais. Petite confiserie, toute de blancs d'œufs en neige, de lait et de sucre en poudre. »
Elle se pencha soudain et lança d'un ton acerbe,
et dotée d'une langue de vipère.
Comme s'il avait senti le venin dans sa voix, le fou inspira brusquement et se réveilla. La tête vacillante, il redressa le cou et parcourut la salle d'un regard qui ne voyait rien. Puis, tout à coup, sa situation lui apparut avec une violente clarté. Je crus qu'il allait crier quand je vis son visage se crisper, mais il se figea soudain, se tourna vers moi et me dit
« Je regrette. Si tu savais comme je regrette. »
La femme pâle fit demi-tour et remonta sur son trône. Elle prit son temps pour s'installer confortablement, puis, une fois à son aise, elle donna ses ordres.
« J'attends ce jour depuis si longtemps que je ne vois aucune raison de précipiter ni de retarder mon plaisir. À la vérité, je pensais disposer de vous près d'un an plus tôt. J'avais promis beaucoup d'or au Pi, à condition qu'ils vous livrent tous les deux indemnes, mais ils n'y ont pas réussi. Une ridicule volonté de vengeance personnelle a réduit à néant nos arrangements avec eux. De toute manière, ils faisaient des alliés peu fiables, avec leurs sales petites bestioles, toujours dans leurs jambes, à polluer leur esprit avec des pensées animales, comme des hommes forniquants avec des brebis. Rien d'étonnant à ce qu'ils m'aient fait faux bond. Jamais je n'aurais dû perdre mon temps avec eux. Enfin, tout ça n'a plus d'importance. Je vous tiens désormais, et, comble de bonheur, je ne le dois qu'à mes propres menées. »
Elle se laissa aller contre son dossier et nous contempla d'un air satisfait, les mains jointes par le bout des doigts.
« Je vous ai fait préparer des appartements depuis longtemps. Garde, escortez mes hôtes, chacun dans ses quartiers, et veillez à ce qu'ils en profitent pleinement. Reposez-vous, détentez-vous, fites ce chevalerie. Je viendrai bientôt vous rendre visite. En attendant, avez-vous des questions ? Non ? Dommage. Je ne propose pas souvent de répondre aux interrogations, mais pour vous, j'aurais fait une exception, car je crois que plus vous en saurez, mieux vous mesurerez combien notre cher petit usurpateur vous a trompé et fourvoyé. Emmenez-les, mais avec ménagement. N'abîmez pas un cheveu de leur tête.
Au sortir de la grande salle, on nous sépara et on nous emmena dans des directions opposées.
« Fitz !»
Le cri soudain du fou me fit sursauter et je me débattis contre la poigne de mes gardes. L'un d'eux me tordait un bras dans le dos et il le releva davantage. Je tentai de planter les talons dans la glace, mais les deux hommes continuèrent à me traîner en avant. La voix du fou me parvint faiblement.
« Je connaissais mon destin. J'ai choisi de m'y livrer. Ne dévie pas de ta route et n'en doute pas. Tout se déroulera comme... »
Il se tut avec une exclamation étouffée. Puis, mon escorte me fit tourner un angle et nous engagea dans un nouveau couloir.
« Où l'emmène-t-on ? »
demandai-je. En guise d'exemple de l'idée que les sbires de la femme pâle se faisaient de la façon de traiter délicatement des invités, je reçus un coup de poing dans le ventre qui me plia en deux. Je reprenais à peine mon souffle quand ils s'arrêtèrent devant une porte de glace. L'un d'eux tira de sa poche un instrument long et mince, l'introduisit dans une petite ouverture, le tourna dans un sens, puis dans l'autre, jusqu'à ce qu'un cliquetis se fît entendre, et s'en servit enfin pour ouvrir le battant vers lui. Son acolyte et lui me jetèrent alors dans la cellule, et je tombai à plat ventre sur des peaux de daim trouées, étendues sur le sol. Un des hommes s'approcha de moi, et je roulai de côté pour éviter ses coups. Mais il saisit mes poignets liés, les leva, à m'en arracher un cri de douleur, puis les libéra soudain. Le poignard avec lequel il avait tranché mes liens m'entailla la main au passage. Il ne parut pas s'en émouvoir.
« Ne fais pas de bruit !» me dit-il d'un ton d'avertissement. « Elle n'aime pas ça, et moi, je n'ai pas envie de me fatiguer à t'obliger à te taire. »
La porte de glace se referma sur lui avant que j'eusse trouvé une réponse. Je restais étourdi du choc de mon crâne contre la glace. Je levai la tête le temps de vérifier que je me trouvais seul dans le cachot, puis, une fois assuré qu'aucun forgisé ne s'y tapissait, je reposai le front sur le sol et fermai les yeux pour tenter de réfléchir. Je les rouvris au bout d'une minute ou d'une semaine. La lumière n'avait pas changé. Aucune idée utile ne m'était venue, et peut-être même avais-je dormi. Je me redressai lentement, des douleurs dans tout le corps, mais une vague d'angoisse pour le fou les balaya de ma conscience. Où l'avait-on entraîné ? Quel sort l'attendait-il ? Il me parut soudain incompréhensible que nous n'eussions pas lutté davantage pour empêcher qu'on nous sépare. L'inventaire de ce que contenait ma cellule ne me prit guère de temps. En guise de lit, un cadre de bois rempli de paille sur lequel on avait jeté quelques couvertures. Dans un angle, un seau pour les déjections, un autre, plein d'eau et bouché par une couche de glace, peut-être destiné aux ablutions si j'en croyais le chiffon qui l'accompagnait. Les peaux de daim étendues par terre. Je palpai mes vêtements. Les gardes avaient dû profiter de mon inconscience pour s'emparer des outils que j'avais trouvés près du dragon. Je n'avais aucune arme, pas même le petit couteau du fou. Seule la fente basse de la porte inébranlable permettait de voir à l'extérieur. Un globe lumineux était enchâssé dans le plafond, hors de ma portée. Je n'avais rien à manger, ni aucun moyen de mesurer le passage du temps. J'allais m'allonger sur le lit rudimentaire en songeant au conseil d'œil de nuit. Quand on n'a plus d'autre réconfort que le sommeil, il faut en profiter. On se réveille plus en forme pour affronter un adversaire éventuel. Je fermais les yeux et tâchais de m'endormir. En vain. J'essayais d'artiser. Rien. Je tendis mon vif. Je sentis vaguement la présence d'êtres humains non loin de moi, mais celle du dragon dominait largement, jusqu'au moment où elle disparut à nouveau. Je me redressai sur ma paillasse et appuyai mon dos meurtri contre la paroi de glace pour en apaiser les élancements. Je dus m'assoupir car je m'éveillais, les cheveux fixés au mur par le froid. Je me libérai précautionneusement avec de petites exclamations de douleur en me traitant de tous les noms. J'avais examiné à plusieurs reprises la porte, l'espace qui la séparait de son encadrement et la fente qui la perçait quand on vint me chercher. Assis par terre, l'œil collé à l'interstice, je vis les trois hommes approcher de ma cellule. Devais-je me sentir flatté que la femme pâle me donnât une escorte si nombreuse ? Les nouveaux venus n'étaient pas ceux qui nous avaient capturés.
« Couche-toi, face contre terre !»
ordonna l'un d'eux derrière la porte fermée. J'obéis. Résister à trois hommes n'arrangerait pas ma condition physique. Je les entendis entrer. L'un d'eux planta un genou dans mes reins pour m'immobiliser, pendant qu'il me liait les poignets dans le dos. Puis, tirant à la fois sur la corde et sur mes cheveux, ils me forcèrent à me relever. Manifestement rompu à ce genre d'exercice, Ils n'avaient pas échangé un mot lorsqu'ils me firent sortir de ma cellule et m'entraînèrent dans le couloir.
« Où est mon ami ?»
l'homme au teint fauve qui m'accompagnait. Pour toute réponse, je reçus un coup de poing dans le flanc, juste en dessous de mes côtes. Mes gardiens continuèrent d'avancer en me tirant entre eux jusqu'au moment où je parvins à me remettre sur pied et à marcher seul. Nous ne croisâmes personne et je m'aperçus que j'avais perdu tout point de repère. Les passages de glace se ressemblaient trop. En cet instant, même si on m'avait rendu ma liberté, je n'aurais pas su où me diriger pour trouver le fou ou une issue. Pour le présent, je n'avais pas d'autre choix que celui de suivre mes ravisseurs. Enfin, nous arrivâmes devant une porte voussée, taillée dans la glace et munie de bâtons de bois poli. Un des hommes toqua, et une voix féminine nous commanda d'entrer. Les vantaux s'ouvrirent et nous pénétrâmes dans la chambre de la femme pâle. Les globes blancs d'où émanait la lumière étaient curieusement disposés, par terre et sur une table basse, et n'illuminaient que le centre de la pièce. Dans un brasero, des charbons qui brûlaient sans fumée apportaient une légère note de chaleur, et les limites de la chambre s'estompaient dans les ombres. Je distinguais un grand lit tapi dans la semi-obscurité, ainsi qu'un alignement de domestiques attendant leurs ordres. J'avais du mal à me rendre compte des dimensions de la pièce. La femme pâle venait d'émerger d'une baignoire apparemment faite d'un verre très épais, dont l'eau fumante, d'un blanc trouble, dégageait un parfum de fleurs d'été. La maîtresse des lieux se tenait nue sur une peau d'ours à la fourrure épaisse, et nous regardait sereinement pendant que deux servantes l'asséchaient avec équanimité. Se montrer devant nous dans le plus simple appareil ne semblait pas la gêner. Ivoirine de la tête aux pieds, elle donnait l'impression d'une créature de neige ou de marbre. L'eau qui plaquait sa chevelure blanche sur sa tête tombait goutte à goutte de la pointe de ses tresses. Une imperceptible nuance rosée teintait les mamelons dressés de ses seins ronds, et l'absence de couleur de sa toison à l'entrejambe répondait à celle de sa chevelure. Elle avait les membres longs et la taille souple, comme le fou, mais avec les hanches et la poitrine pleine. Nul homme n'aurait pu poser les yeux sur elle sans éprouver du désir. Elle le savait pertinemment, mais cela ne l'empêchait pas de se présenter nue devant nous, garde et prisonnier, comme si son pouvoir sur nous se trouvait renforcé de ce qu'elle pouvait s'exhiber sans craindre d'attention malvenue. Ces hommes, le visage de pierre, sans aucune réaction devant sa nudité, restèrent immobiles, deux de part et d'autre de moi, le troisième derrière moi, et attendirent les instructions de leur maîtresse. Les servantes lui apportèrent des bottes souples en fourrure et la vêtirent d'abord d'une robe de soie fine, puis d'une autre, plus épaisse, en laine bordée d'hermine. Sans se hâter, elle s'assit sur un trône en bois sombre et à dossier bas. Une troisième outrilienne entra, et je reconnus tout à coup Enya, les bras chargés d'une serviette propre, de brosses et d'épingles. Elle se plaça derrière la femme pâle et entreprit de coiffer ses cheveux encore humides. La souveraine n'avait pas encore dit un mot. Elle s'adossa et s'abandonna aux soins d'Enya avec un plaisir manifeste. Ses paupières se baissèrent tandis que la servante passait lentement la brosse d'ivoire dans sa crinière blanche. Une fois sa longue chevelure débarrassée de ses nœuds, puis tressée en une multitude de nattes remontées sur le sommet de son crâne et fixée en chignon, elle rouvrit les yeux et parcourut la chambre du regard. Elle s'arrêta sur moi, m'examina comme si elle n'avait pas remarqué ma présence, puis fronça légèrement les sourcils.
« Il est sale. Ne vous avais-je pas ordonné de lui fournir de l'eau pour se laver avant de me l'amener ?»
Les gardes eurent un mouvement de recul et l'un d'eux répondit précipitamment.
« Nous avons obéi, madame, mais il n'y a pas touché. Je suis mécontente !»
À ces mots, les trois hommes blêmirent. Elle s'adressa à moi.
« Vous empestez autant que Kébal pain cru. Je croyais les hommes des six duchés plus soignés. »
Ses yeux se tournèrent brièvement vers la baignoire, puis revinrent sur moi.
« Remédiez-y, l'eau est encore chaude. »
Elle prit une pause alanguie, avec une expression de défi.
« Lavez-vous, Fitz Chevalerie. Vous allez dîner avec moi et je souhaite sentir ce que je mange, non l'odeur de votre crasse. »
Je ne bougeais pas et demeurais impavide. Elle eut un sourire nonchalant.
« Craignez-vous de compromettre votre dignité en vous dévêtant et en vous lavant ? Croyez-moi, la plupart de mes serviteurs ont oublié le sens de l'expression « dignité humaine » et ils se moquent bien de la vôtre. Vous vous accrochez à votre puanteur comme à votre honneur, mais je puis vous le promettre. Vous perdrez bien plus que votre amour-propre si je dois vous forcer à vous baigner. Décidez-vous vite, je ne suis pas d'un naturel patient et je n'admettrai pas une pareille odeur à ma table. »
En aparté à ses domestiques, elle ajouta.
« On penserait que le fils d'un roi, même bâtard, aurait plus de respect pour sa propre personne. »«
J'ai les mains liées, » dis-je avec raideur.
Je m'évertuais à chercher un moyen de me sortir d'affaire ou de tirer avantage de la situation, mais n'en trouvais aucun. J'empestais, en effet. Je m'en rendais compte à présent. Toutefois, après une première réaction d'humiliation, je compris bientôt sa stratégie. Humbre m'avait expliqué depuis bien longtemps l'intérêt d'anéantir l'amour-propre et l'estime de soi de qui l'on veut interroger. Pour certains individus, cela se révèle plus efficace que la torture. Il suffit de les dépouiller de leur dignité, de les emprisonner comme des bêtes pour qu'ils manifestent une reconnaissance souvent disproportionnée quand on leur rend les petits plaisirs de la civilisation. Parfois même, un simple geste de bienveillance peut faire basculer le cœur d'un homme. Enfermé dans une cellule glacée, dans le noir, sans nourriture, il peut percevoir, comme une offre de pardon, une chandelle et un bol de soupe. Briser un homme de cette façon demande beaucoup moins d'efforts que par la torture. Elle sourit.
« Ah, en effet, vous auriez la tâche difficile, les mains liées. »
Elle fit un geste à l'intention des gardes.
« Menez-le à la baignoire et détachez-le. »
Ils me propulsèrent en avant, avec une brutalité qui ne laissait pas de place au doute. Ils me contraindraient à tout ce qu'elle leur donnerait, et résister leur donnerait seulement une excuse pour me rouer de coups. En revanche, obéir me fournirait peut-être un avantage, ne fût-ce que celui de retrouver ma liberté de mouvement. Je serrais les dents et ravalais ma dignité. Une fois mes liens tranchés, je tournais le dos à la femme pâle, me dévêtis et réussis à cacher mon épingle à tête de renard dans le creux de ma paume. Puis, je me plongeai dans l'eau et fis ma toilette, rapidement, pour éviter de me laisser trop aller au bien-être du bain tiède. Une femme m'apporta du savon mou dans un bol, et par réflexe, je la remerciai courtoisement. Elle ne répondit pas. L'eau était devenue grise quand je me redressai. Deux servantes s'approchèrent. Je pris les serviettes qu'elles apportaient, leur présentai mon dos et me séchai. Elles revinrent peu après avec des chaussons de laine feutrée et une robe de laine blanche. Mon uniforme fatigué de serre avait disparu. J'enfilai les nouveaux habits, piquai discrètement l'épingle dans mon col et me retournai vers l'assistance. La femme pâle avait fait pivoter son siège afin de pouvoir m'observer à son aise. Un sourire de chat aux lèvres. Elle remarqua.
« Vous avez des cicatrices intéressantes et le physique d'un guerrier. Rase-le, Enya. Je désire contempler le visage nu de celui qui a failli être roi. »
Je restais saisi en entendant ces mots. Jamais je ne m'étais vu sous ce jour. L'espace d'un instant, je crus sentir la réalité du titre, puis je repoussai cette impression. Il ne s'agissait que d'une nouvelle ruse. Les deux servantes revinrent avec un fauteuil, suivi d'Enya qui portait une cuvette, du savon et un rasoir.
« Je vais m'en charger moi-même, » dis-je précipitamment.
L'imaginer brandissant une lame aiguisée au ras de ma gorge me nouait l'estomac.
« Certainement pas !»
intervint la femme pâle, avec un mince sourire.
« Je ne commettrai pas l'erreur de vous sous-estimer, Fitz Chevalerie. Je sais la formation que vous avez subie. Votre famille a fait de vous un assassin, non un prince, et elle vous a toujours laissé dans l'ignorance de ce dont elle vous a dépossédé. Mais je vous le révélerai, moi. Je vous montrerai l'héritage légitime dont elle vous a privé. Toutefois, je veux avoir la certitude que vous adhérez à ce que je vous offre avant de placer une arme entre vos mains. À présent, asseyez-vous et ne bougez plus. Enya connaît son travail sur le bout des doigts, mais je ne la tiendrai pas pour responsable d'un accident si vous vous agitez.
Je ne crois pas m'être jamais senti aussi mal à l'aise de toute ma vie. Tandis qu'Enya me rasait puis me coiffait, les autres servantes m'examinèrent les mains, me curèrent les ongles, puis les coupèrent, tout cela sous le regard de la femme pâle, qui m'observait comme un chat guette un oiseau. Jamais je n'avais été l'objet de tels soins, mais ces attentions me procuraient un sentiment d'humiliation plus que de bien-être. La seule fois où j'ouvris la bouche pour demander « Où est le fou ?» le rasoir d'Enya m'entailla la peau. Comme je sentais le sang commencer à couler le long de ma gorge, elle appliqua une serviette sur la coupure pendant que la femme pâle répondait.
« À mon avis, il se trouve devant nous. Ne croyez-vous pas ?»
Étant donné ma situation, je ne pouvais guère la contredire. Les gardes laissèrent échapper de petits rires serviles, mais leur maîtresse leur lança un regard d'avertissement, et ils se reprirent aussitôt. Pendant que les domestiques s'empressaient auprès de moi et que les hommes d'armes demeuraient immobiles, le visage marmoréen, d'autres serviteurs apportèrent une table et la drapèrent d'une nappe blanche sur laquelle ils disposèrent des couverts et des plats en argent massif. Au milieu, ils placèrent un candélabre dont ils allumèrent les 6 grandes bougies blanches. Puis, tout autour, des plats et des soupières d'où s'échappaient des vapeurs aux arômes tentateurs. Du vin et des verres firent leur apparition, et enfin, 2 sièges rembourrés qu'on installa de part et d'autre de la table. Enya m'essuya le visage, puis s'écarta de moi pour s'incliner devant la femme pâle. Mon hôtesse s'approcha de moi, mais s'arrêta à quelque distance. Elle pencha la tête et m'étudia d'un œil froid de la tête aux pieds, comme un cheval dont elle eût envisagé l'achat. « Vous n'êtes pas mal fait, » déclara-t-elle pour finir. « Avant les avanies auxquelles votre famille vous a exposé, vous ne manquiez peut-être pas d'une certaine beauté. Bien, voulez-vous que nous dînions ?» Là-dessus, elle se dirigea vers sa chaise, qu'un garde tira pour lui permettre de s'asseoir. Je me levai pour la suivre, un autre de ses soldats sur les talons. D'un geste, elle m'indiqua de prendre place en face d'elle. Puis, une fois que je me fus exécuté, elle fit un nouveau signe de la main et l'homme derrière moi se retira dans les ombres de la chambre. Sur son ordre, l'éclat des globes lumineux baissa soudain et seul demeura celui des bougies, qui nous isola dans une bulle de lueur ambrée. Malgré cette apparence d'intimité, je n'oubliais pas que ses gardes et ses servantes se tenaient invisibles dans la pénombre et ne nous quittaient pas des yeux. La table était petite. La femme pâle plongea une louche dans une soupière et remplit un bol qu'elle posa devant moi avant de se servir elle-même. « Ainsi, vous ne me soupçonnerez pas de chercher à vous empoisonner ni à vous droguer, » expliqua-t-elle en prenant sa cuillère. « Restaurez-vous, Fitz Chevalerie. Ce potage est excellent, et vous devez mourir de faim. Je ne vous dérangerai pas par des bavardages oiseux pour le moment. » J'attendis tout de même qu'elle eût avalé 2 cuillerées avant de l'imiter. Dans la soupe, en effet délicieuse, épaisse et veloutée, flottaient des morceaux de légumes et de viande fondante. Je n'avais rien goûté d'aussi bon depuis mon départ de Castelserre. Et j'aurais terminé mon assiette en un clin d'œil si mes bonnes manières ne m'avaient retenu. Ma seule défense restait ma maîtrise de moi-même, et je fis un effort pour manger sans hâte, prendre le pain qu'elle me tendit et une noix de beurre. Elle nous servit du vin blanc, et après le potage, des aiguillettes d'une volaille à la chair tendre et pâle. Je me régalais et sentais mon organisme se détendre malgré ma volonté de demeurer sur mes gardes. On nous présenta pour le dessert un entremets blanc qui dégageait une appétissante odeur de vanille et saupoudré d'épices tièdes. Pendant que nous lui faisions un sort, mon hôtesse me regardait sans mot dire, l'air songeur. Le vin chantait doucement dans mes veines. Je voulus d'abord lutter contre son effet lénifiant avant d'identifier la sensation. Je pris une profonde inspiration et m'y abandonnai. Il n'était pas l'heure de résister. La femme pâle me sourit. Avait-elle perçu ma capitulation? Je m'ouvris à sa présence. Elle portait un parfum qui évoquait le narcisse. À la fin du repas, nous nous levâmes de table. De la main, elle appela les domestiques invisibles. Comme ils sortaient de l'ombre pour débarrasser, un homme jeta du combustible dans le brasero, dont l'éclat augmenta soudain. On avait disposé devant lui un divan semi-circulaire, garni de coussins. La femme alla s'y asseoir et tapota la place à côté d'elle pour m'inviter à la rejoindre. J'obéis et me laissai tomber sur le rembourrage moelleux. Les manières aimables de mon hôtesse désarmaient ma méfiance, déjà émoussée par le vin et la bonne chère. Elle tenterait de m'arracher des renseignements par des questions innocentes, je le savais, et je m'efforçais de conserver mes esprits. Je devais rester sur mes gardes et obtenir d'elle autant d'informations que je le pourrais, tout en lui en fournissant le moins possible. Elle me sourit de nouveau, et je craignis qu'elle ne pressentît ma tactique. Mais elle ramena ses jambes sous elle, en une posture familière du fou, et se pencha vers moi, ses genoux ronds, vers moi. « Vous fais-je penser à lui ?» me demanda-t-elle à brûle-pourpoint. À quoi bon mentir? Oui. Oui, en effet. Où est-il? En lieu sûr. Vous avez beaucoup d'affection pour lui, n'est-ce pas? Vous l'aimez? Sans me laisser le temps de répondre, elle reprit. Naturellement. Et il suscite ce sentiment chez tous ceux sur qui il décide d'exercer sa séduction. Il est si intrigant, si charmant. Quel privilège, vous dites-vous, d'avoir la chance de le connaître? Il danse aux frontières de votre compréhension et vous jette parfois d'infimes indices sur sa véritable nature, comme on jette de petits morceaux de sucre à un chien. Chaque fois, vous vous sentez grandi d'une si grande confiance. Et pendant ce temps, il extrait de vous toutes les bribes de connaissances dont il a besoin. Il vous expose au danger et à la souffrance pour parvenir à ses propres fins, et il prend tout ce que vous avez à donner. C'est mon ami le plus cher. J'aimerais le voir afin de m'assurer qu'on le traite bien. Je m'exprimais d'un ton guindé, le cœur serré par la cruelle exactitude de sa description du fou. L'accablement m'avait saisi, et je vis qu'elle s'en rendait compte.
« Je n'en doute pas. Plus tard, peut-être, après que nous aurons parlé. Dites-moi, le considérez-vous vraiment comme le prophète blanc ? Celui qui vient changer le cours du monde pour l'orienter vers une voie meilleure. »
Je haussai les épaules. Jamais je n'étais parvenu à une certitude définitive là-dessus. Pourtant, j'eus l'impression de trahir le fou en déclarant. Il l'a toujours affirmé.
Ah ! Mais il aurait aussi bien pu se prétendre le roi perdu de l'île des légendes. L'auriez-vous cru ?
Je n'ai jamais eu de raison de penser qu'il mentait. Je m'efforçais de prendre un ton assuré, mais je sentais le désarroi s'insinuer en mon cœur.
« Vraiment ? Très bien. Dans ce cas, je me vois obligé de vous en fournir quelques-unes. »
Elle tendit la main, la plongea dans un récipient posé par terre et que je n'avais pas remarqué, puis jeta dans les flammes la poignée de ce qu'elle y avait puisé. Une fumée au suave parfum de rose s'éleva du brasero. Je m'en écartai et elle éclata de rire.
« Avez-vous peur que je vous intoxique ? Ce ne sera pas nécessaire. Votre propre logique et votre bon sens suffiront à vous convaincre. Ainsi, notre ami se présente comme le prophète blanc. Pourtant, vous ne le nierez pas, il a perdu toute blancheur. Il vous aura certainement expliqué que les membres authentiques de notre lignée conservent leur pâleur d'origine toute leur vie, non ? Eh bien, je vous l'apprends à présent. Nous descendons, j'ignore s'il vous l'a dit, des véritables blancs qu'évoquent les traditions, êtres merveilleux, disparus depuis longtemps de ce monde et de tous les autres. Le teint laiteux est d'une sagesse incomparable, car il possédait le don de prescience. Poursuivons. Le premier imbécile venu comprendra que l'avenir n'est pas écrit à l'avance. Il embourgeonne un nombre infini à l'extrémité de chaque instant, et la chute d'un pétale de rose peut les modifier tous. Toutefois, certains pressentent une plus grande probabilité que d'autres, et quelques-uns, une si considérable, qu'ils ressemblent à de puissants chenaux dans lesquels le temps peut s'engouffrer. Aux temps anciens, avant l'apparition de votre peuple, nous avons constaté ce phénomène. nous, les Blancs, et pris conscience peu à peu que, par nos actes, nous pouvions influencer l'émergence de l'un ou de l'autre de ces avenirs. Sans aucune garantie de succès, naturellement, nous pouvions néanmoins nous servir de notre savoir pour orienter d'autres peuples, inférieurs à nous, vers des voies qui dirigeraient progressivement le courant du temps vers des eaux plus calmes et plus sûres, où tous prospéreraient. Comprenez-vous ce que je vous explique, Fitz-Chevalerie ?
J'acquiesçais lentement de la tête. Malgré l'assurance qu'elle m'avait donnée, les fumées odorantes du brasero m'inclinaient vers elle. Je sentais avec acuité le parfum qu'exhalait sa peau et ses fins cheveux blancs aux tresses luisantes, et la proximité de son corps m'imprégnait peu à peu, comme la sève printanière envahit le bois et gonfle les bourgeons. Je poussai un soupir et elle sourit. J'eus l'impression qu'elle s'était rapprochée de moi sans pourtant se déplacer.
« Oui, c'est cela. Songez à la façon dont vous êtes arrivé ici, dans ma place forte, pour vous livrer à moi. Je savais qu'un jour je vous tiendrais tous les deux, mais les moyens par lesquels vous deviez tomber en mon pouvoir me restaient obscurs. Aussi ai-je entrepris de modifier l'avenir en employant tous les expédients propres à vous amener à moi ou à me débarrasser de vous. Mes agents ont négocié avec Royal. Eh oui, afin de placer hors de votre portée certains instruments qui auraient pu faciliter votre tâche. On a imprimé dans l'esprit de nombreux forgisés la mission de vous trouver, Vérité et vous, et de vous tuer. Ils ont tous échoué, mais j'ai poursuivi mes efforts. J'ai envoyé Enya à Castelserre, où elle a payé les pies pour qu'ils vous capturent, votre ami le fou et vous livrent à elle, mais eux aussi ont manqué leur coup. J'ai de nouveau lancé mes filets, sous la forme d'un gâteau à l'écorce elfique, destiné à étouffer votre magie à tous, mais vous seul en avez mangé, et mon plan s'en est trouvé mis à mal. Je me suis alors emparé des hommes partis au ravitaillement sur ordre d'Imbre, sachant que vous ne manqueriez pas de les chercher. Toutefois, avant que je puisse vous faire prisonnier, vous avez disparu de ma perception, mais pour vous jeter peu après dans la gueule du loup. Voilà le pouvoir du courant du temps, Fitz-Chevalerie. Il était pratiquement inévitable que vous veniez à moi. Certes, j'aurais pu m'en remettre à la chance, mais les Blancs ont pour tradition d'assurer, autant que faire se peut, l'avènement de l'avenir souhaité. Même quand nous avons compris que notre espèce s'effaçait du monde, nous nous sommes efforcés de manipuler les temps futurs afin de ne pas perdre toute influence sur eux. Grâce à leur prescience, les Blancs avaient appris qu'ils périraient un jour et que le monde devrait poursuivre sa course sans eux, en aveugle. Mais l'une d'entre eux, une femme douée d'une clairvoyance supérieure, avait compris que leur action perdurerait à condition qu'elle mêle son sang à celui d'un mortel ordinaire. À cette fin, elle s'est mise à parcourir la terre et chaque fois qu'elle rencontrait un preux digne d'elle, elle portait un enfant de lui. Elle a ainsi donné le jour à 6 fils et 6 filles, tous d'apparence humaine. Et quand l'heure a sonné pour elle de quitter le monde, elle éprouvait une profonde satisfaction, car elle le savait, chaque fois que les descendants de ses enfants se croiseraient entre eux, un Blanc naîtrait de leur union. La sagesse et les dons de son peuple survivraient. N'est-ce pas une belle histoire ?
Le fou affirme que chaque époque voit la naissance d'un seul prophète Blanc.
Le fou ? Oh, que d'affection dans ce charmant petit surnom.
Elle sourit, et ses lèvres pâles formèrent un arc d'ivoire parfait.
Et qu'il lui va bien. Je m'étonne qu'il vous permette de l'appeler ainsi.
Elle poussa un léger soupir.
Mais je devrais me réjouir, sans doute, qu'il se soit montré aussi franc avec vous. En effet, un seul prophète Blanc peut régner. Or, pour le temps présent, il s'agit de moi. Son existence constitue une erreur, un anachronisme. Voilà pourquoi son teint s'assombrit, je pense. Si on l'avait gardé au temple jusqu'à ce que sa pâleur disparaisse, il n'aurait pu nuire à personne. Mais ses surveillants ont toujours fait preuve d'une indulgence coupable et d'une trop grande confiance envers cet irrésistible petit chenapan. Il a donc réussi à leur échapper et à se perdre dans la nature pour commettre ses méfaits. Voyons si nous pouvons en réparer quelques-uns, vous et moi. Dites-moi, quel terrible destin prête-t-il au monde pour opposer sa misérable influence à la mienne ?
Je me tus un moment, puis avouai. Je ne le sais pas exactement. L'irruption d'une ère plongée dans le mal et les ténèbres, me semble-t-il.
On eût dit le ronronnement satisfait d'un chat qui s'installe confortablement. Eh bien, je vais vous fournir un exposé moins fumeux que le sien. Il redoute l'avènement d'un âge de l'homme où les plus forts domineront et soumettront la sauvagerie et l'anarchie qui règnent sur la terre. Pourquoi il considère cela comme une catastrophe ? Je ne l'ai jamais compris. Pour ma part, je ne vise pas d'autre but. Que prévalent l'ordre et la productivité, que les forts engendrent des enfants forts pour leur succéder. Si je réussis, je veillerai à ce que les ressources se répartissent équitablement. Mes pauvres outriliens manquent de tous les bienfaits. Ils n'ont qu'un sol caillouteux à labourer pendant leurs étés brefs et froids, et ils doivent arracher à la force du poignet une maigre subsistance d'un océan impitoyable. Pourtant, ils sont parvenus à former un peuple résistant, qui mérite davantage, et je veux les aider. Le monde s'en porterait mieux. Vous ne me contredirez pas. Mais votre ami au teint ambré nourrit d'autres ambitions qu'il juge plus élevées. Entre autres fadaises, il se croit investi de la mission de réintroduire les dragons sur cette terre. Selon lui, il faut opposer une concurrence à la domination de l'homme. Vous en a-t-il parlé ?
Un peu, oui.
Vraiment ? Cela m'étonne. Et quel bien espère-t-il du retour d'un monstrueux prédateur qui regarde le monde entier comme son terrain de chasse, qui ne respecte aucune frontière, ne reconnaît pas la propriété et voit en l'homme, au mieux, un instrument et le plus souvent, une source de nourriture ? Franchement, l'idée que votre peuple devienne du bétail pour d'immenses créatures écailleuses vous plaît-elle ?
Pas spécialement. Quelle autre réponse aurais-je pu donner à pareille question ? Pourtant, j'éprouvais encore une fois le sentiment de trahir le fou. Les propos soigneusement calculés de mon interlocutrice infiltraient en moi des racines de doute qui se ramifiaient lentement. Elle éclata de rire, ravie, et se rapprocha de moi.
« Évidemment, comme tout le monde, moi comprise. Je descends peut-être des Blancs, mais mes parents étaient humains. »
Je tentais une faible contre-attaque. Néanmoins, vous avez lancé les Outriliens et leurs navires rouges contre notre peuple. Ils les ont incendiés et pillé nos villes, ils ont forgisé nos semblables. Où est le bien là-dedans ?
Et vous croyez que je les y ai poussés ? Oh, quelle erreur ! Au contraire, je les ai retenus, mon cher. J'ai réfréné leur ardeur et leur ai interdit d'annexer les territoires conquis. Vous avez vu Kébal Pincru ? Vous donne-t-il l'impression d'un homme qui a réalisé ses rêves de domination et d'enrichissement ?
Non, bien sûr que non.
À qui doit-il sa situation actuelle ? À moi ? Dès lors, comment pouvez-vous me considérer comme l'ennemi de votre royaume ?
Je ne sus que répondre. Mon regard se perdit dans les flammes du brasero. À nouveau, je perçus un picotement d'art et j'entendis du moins le cruge, le lointain écho de la musique de lourd. Mais j'étais sans doute le jouet de mon imagination, puisque mon art avait disparu. Je sentis la main fraîche de la femme pâle se poser sur ma joue et me forçai sans brutalité à me tourner vers elle. Je contemplai la colonne blanche de son cou. Qu'elle serait douce sous mes doigts. Les yeux dans les miens, elle reprit.
Votre fou n'a pas menti en affirmant que les prophètes blancs ont pour mission de changer le cours du monde. J'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas réussi à modifier complètement les événements, mais je m'y suis efforcé, et si les pirates rouges ont attaqué vos côtes, ils n'ont colonisé aucune de vos terres. »
Elle s'exprimait en termes simples, avec logique, et son discours se refermait sur moi comme une nasse.
« Quand des traîtres parmi vous ont vendu aux marchands de Kébal des traités sur votre magie, je n'ai pas pu l'empêcher d'apprendre votre art et de le retourner contre vous.
Mais les vôtres ont leur part de responsabilité là-dedans. Ne se sont-ils pas défaits de ces manuscrits contre des espèces sonnantes et trébuchantes? Et pourquoi? Parce qu'un fils cadet de sang royal désirait plus de pouvoir? Vous n'aimiez pas royal, je le sais, et il vous le rendait. Il sentait au fond de lui l'improbabilité de votre existence, la rareté d'une naissance comme la vôtre dans l'entrelac des fils du temps, et instinctivement, il voulait vous éliminer pour permettre au monde de suivre la voie prévue. Réfléchissez. Royal traitait en secret avec les pirates rouges. S'il était monté sur le trône, ces échanges auraient continué au vu et au su de tous. Les Outréliens auraient été accueillis à bras ouverts chez vous, en négociant et non en guerriers, pour le plus grand profit de chacun. Qu'y avait-il de si effrayant dans cette perspective? Elle aurait pu advenir sans les machinations de votre fou. Je ne vous mentirai pas. Pour prix de cette paix et de cette prospérité, votre existence aurait dû s'achever prématurément. Mais franchement, jugez-vous ce coût trop élevé? Songez au nombre de fois où vous avez été prêt à donner votre vie pour votre famille. Or, Royal appartenait au loin-voyant autant que vous. Si vous aviez accepté de mourir pour lui, vite et sans douleur, ce sacrifice n'aurait-il pas été honorable? Elle déformait jusqu'à la rendre méconnaissable ma conception du monde, de ma famille et des six duchés. Le fil de soie de son discours m'enserrait en boucles inexorables dont la nouvelle vérité me ligotait. À tâtons, je cherchais en moi les convictions que je croyais jusque-là ancrées indéracinablement et découvris une faille dans sa logique. Sans ma naissance, c'est mon père qui aurait accédé au pouvoir. Elle éclata d'un rire léger, mais son sourire s'était effacé.
« Allons, vous chicanez, vous le savez bien. Votre père aurait péri, jeune, sans enfant, dans un accident de chasse. J'ai vu cette scène se répéter à l'infini dans mes visions. Vérité ne se serait pas mariée, et une fièvre maligne l'aurait emporté l'hiver suivant, si vous étiez mort au bon moment. Le trône serait revenu sans heurts à Royal, le temps aidant, il aurait bénéficié de la faveur et des lumières de son père, et il aurait fait un grand monarque. Certes, la lignée aurait disparu avec lui, mais splendidement, dans la paix et l'abondance, pour les six duchés, comme pour les îles d'outre-mer. Je n'ai aucune raison de vous mentir là-dessus. Cet avenir ne verra jamais le jour. Quel motif aurais-je de vous tromper?
Je l'ignorais. Et pourtant, je le savais. Mon art papillonnait aux limites de ma conscience, magie évasive, indigne de confiance, ainsi que je le savais depuis toujours. La femme pâle me l'assurait. N'y prête pas attention. Vous m'embrouillez l'esprit, vous vous contredisez et vous faussez la réalité que je connais. Vous vous jouez de moi. Elle éclata d'un rire guttural et ravi.
Mais bien sûr, tout comme votre fou bien-aimé, qui vous enchante par la danse de ses mots et vous propose sans façon de voir la vérité.
Je vous enchanterai moi aussi, maintenant que vous m'appartenez, car je vous prends à mon service.
Il le faut.
Nous devons collaborer pour rendre au monde sa direction naturelle, non par votre mort, mais par la vie que je vous donnerai. Vous serez désormais mon catalyseur, mille fois plus puissant que Kébal Pincru, et je vous charmerai mille fois plus que votre fou pitoyable, car nous représentons enfin le couple parfaitement complémentaire, non seulement prophète et catalyseur, mais aussi mâle et femelle, nous formerons l'harmonie qui change le monde. Je serai tout ce que secrètement il rêvait en vain d'être pour vous. À la différence qu'à sa défaillance, je substituerai ma perfection, et vous comprendrez peu à peu que, loin de trahir votre petit fou, vous restez fidèle au monde et à sa destinée naturelle. Goûtez-le dans sa vérité inaltérée. Goûtez-le. » Elle avait approché son visage du mien, en parlant, et sa bouche toucha la mienne. Sa douceur et la fraîcheur lutine de sa langue commandèrent à mes lèvres de s'entr'ouvrir. Elle n'avait pas menti. Une suavité capiteuse, plus étourdissante que tout ce que j'avais jamais connu, m'envahit à son contact. Frissonnant, je la pris par les épaules pour l'empêcher de s'écarter. Le désir me submergea et la justesse, le caractère inévitable de cet instant chassèrent toute autre considération de mon esprit. Je me moquais que ces gardes et ces domestiques nous observent dans les ombres de la chambre. Plus rien ne comptait pour moi que la beauté idéale de son corps d'albâtre. Un seul détail manquait pour parachever l'avenir qu'elle m'offrait. Je laissais cette pensée monter à la surface de ma conscience. « Notre enfant sera magnifique, » m'assura-t-elle en me lâchant. « Notre fils fera ton bonheur, je te le promets. » Je sentis la vérité qui imprégnait ces paroles, et elles s'infusèrent en moi, vibrantes, comme de l'argent glacé dans mon sang. Un enfant. Elle me donnerait un enfant que je pourrais tenir dans mes bras, aimer, un enfant que nul ne me volerait. Elle connaissait mes désirs les plus chers, et elle m'offrait la possibilité de les réaliser. Elle créait dans mon imagination l'avenir auquel j'avais toujours aspiré, façonné, pour répondre à toutes mes envies. Comment et pourquoi y aurais-je résisté? Elle se leva, passa sa robe de laine par-dessus sa tête et la laissa tomber à côté du divan. Celle de soie suivit le même chemin, et elle se tint devant moi, dans l'éclat jaune du brasero qui jouait sur ses formes, sur la pâleur de sa peau. La lumière dorait les courbes de son corps et de son visage. Ses seins blancs étaient ronds et lourds. Elle les prit dans ses mains et se tendit vers moi pour m'inviter à écouter. Lentement, elle s'assit près de moi. Puis, elle se laissa aller en arrière en m'ouvrant ses bras et ses cuisses. « Viens, je sais tout ce dont tu as envie et je te le donnerai. » Elle appuya languissamment sa tête contre l'accoudoir. Ses yeux sans couleur se posèrent sur moi et me transpercèrent. L'évidence de ces mots tonna en moi au rythme effréné de mon cœur. Je me dressai à mon tour et ôtai fébrilement mes vêtements. Elle baissa le regard pour voir ce que j'avais à lui offrir. À cet instant, je dressai mes murailles d'art et me barricadai plus étroitement que jamais pour bloquer son influence insidieuse. Puis, je me jetai sur elle, ainsi qu'elle l'escomptait, mais je refermai les mains sur sa gorge blanche, tandis que j'enfonçais brutalement mon genou dans le doux arrondi de son ventre. Je sentis à la fois son art et ses poings me frapper. Je savais n'avoir qu'une seule occasion de la réduire à l'impuissance, et un froid mortel m'envahit quand je compris que je l'avais manqué. Elle ressemblait physiquement au fou, et j'aurais dû me douter qu'elle possédait la même vigueur étonnante. Sans attendre l'intervention de ses gardes, elle baissa le menton pour m'empêcher de l'étrangler, passa les poings entre mes coudes et, ouvrant grand les bras, m'obligea à lâcher sa gorge. Elle me repoussa violemment en arrière, et comme je m'effondrais contre le brasero qui tomba en projetant des braises dans toutes les directions, elle leva les mains au-dessus de sa tête. Les globes blancs flamboyèrent brusquement et répandirent un flot de lumière dans la pièce. De tous côtés, des hommes d'armes se précipitèrent sur moi. Vu leur nombre, ils ne pouvaient qu'avoir raison de moi, et j'aurais dû les laisser me terrasser, me rendre aussitôt. Mais la vue du fou, bâillonné et enchaîné, bras écartés à un mur de glace, comme un trophée de chasse, avait suscité en moi une fureur telle que je n'en avais plus connue depuis mes derniers combats, à la hache contre les pirates rouges. Je me brûlais en saisissant le brasero à pleine main et en le projetant sur mes assaillants. Je ne m'attendais pas à survivre. Aussi les affrontais-je sans souci de ma sécurité, en y mettant toutes mes forces, ce qui explique, je pense, qu'il leur fallut tant de temps pour me maîtriser. Ils avaient ordre de me prendre vivant et retenaient leurs coups tandis que je lâchais la bride aux miens. Je sais que je brisais la clavicule de l'un d'eux, car je l'entendis se rompre, et je me rappelle avoir recraché un morceau d'oreille. Mais comme dans toutes les batailles où la rage s'empare de moi, je ne garde de celle-là que des souvenirs vagues et décousus. Je n'oublie pas, en revanche, que je perdis la lutte. Je sus qu'elle était achevée quand je me retrouvai à plat ventre, plaqué par les genoux de trois hommes. J'avais du sang dans la bouche, dont le mien. Depuis que j'ai été lié à un loup, je n'ai jamais eu scrupule à faire usage de mes dents lors d'une bagarre. Mon bras gauche ne m'obéissait plus. Quand on me releva sans ménagement, il battit mollement contre mon flanc inerte. Je songeais avec accablement que j'avais l'épaule luxée, et j'attendis la douleur qui ne manquerait pas de poindre tôt ou tard. J'avais réussi à parvenir près du fou. Il évoquait un papillon épinglé, fixé à la paroi de glace, les bras en croix, la tête maintenue contre le mur par une bande de métal qui lui enserrait le cou. Un bâillon lui entaillait la commissure des lèvres. Du sang en avait coulé pour tomber sur sa chemise. Nos ravisseurs avaient dû fouiller son sac, car il portait la couronne au coq. On lui avait enfoncé le cercle de bois jusqu'aux oreilles. Il avait les yeux ouverts, et je me rendis compte qu'il avait assisté au spectacle cruel de la femme pâle, que la scène de séduction à laquelle j'avais participé n'avait eu d'autre but que de le tourmenter. Je perçus aussi, quand nos regards se croisèrent, qu'il savait que je ne l'avais pas trahi. Je vis ses doigts enduits d'art tressaillir faiblement au bout de sa main garrottée. Lui aussi avait senti l'assaut insidieux de son ennemi par ma magie renaissante et le lien qui nous unissait.
« J'ai fait ce que j'ai pu !»
lui criai-je alors, qu'il laissait retomber sa tête, autant que le lui permettaient ses entraves, et qu'il fermait les yeux. Après avoir servi de divertissement aux gardes, du sang sourdait à travers ses vêtements et formait de longues mèches rouges dans ses cheveux poisseux de sueur, il se trouvait désormais réduit au silence et enchaîné à la glace, torturé par ce froid qu'il avait toujours tellement détesté. Ses visions lui avaient-elles montré cette mort lente et pénible? Était-ce pour cela qu'il redoutait tant les températures trop basses?
« Menez-les tous les deux à ma salle du trône !»
La voix de la femme pâle évoquait les craquements de la banquise. Non sans mal, je tournai la tête vers elle. Elle s'était rhabillée. Sa lèvre inférieure commençait à enfler et plusieurs nattes défaites pendaient devant son visage. « Beau résultat d'une attaque que je voulais meurtrière, » me dis-je avec ironie. Je n'éprouvais cependant qu'un amusement mitigé quand les gardes me saisirent rudement et m'entraînèrent sans ménagement pour mon bras qui balait, inerte. Derrière moi, j'entendis les cris pitoyables du fou qu'on arrachait à ses fers. Les couloirs me parurent plus longs et plus blancs, comme si la fureur de la femme qui marchait à grandes enjambées devant nous donnait un éclat plus vif aux lumières. Les rares personnes que nous croisâmes eurent tout un mouvement de recul ou se collèrent au mur sur son passage. Je tentai de graver dans ma mémoire les tours et détours que nous effectuâmes. Si le fou et moi parvenions à nous échapper, il nous faudrait savoir quelle direction prendre. Mais je me rendis bientôt compte de la futilité de mes efforts, tant pour fixer notre chemin dans mon esprit que pour garder espoir. Nous étions à bout. La partie s'achevait. Le fou allait périr, moi avec lui, et son œuvre aboutirait à une fin sanglante et inutile. J'aurais pu aussi bien mourir la première fois que Royal a posé les yeux sur moi et a proposé à Vérité de m'éliminer discrètement. Je m'aperçus que j'avais parlé tout haut quand un des hommes d'armes me bouscula en m'ordonnant
« Ferme-la !»
Nous continuâmes de marcher, non sans difficulté, car j'avais du mal à me concentrer et plus encore à surmonter ma peur. Je baissai mes murailles d'art, puis, rassemblant le peu d'énergie qui me restait, j'essayais d'artiser de voir seul pour le mettre en garde et lui demander de l'aide, mais, comme un homme qui palpe en vain ses vêtements à la recherche de sa bourse, je constatais que ma magie avait de nouveau disparu et que je ne parvenais pas à la retrouver. J'avais perdu ma dernière arme. Quand nous arrivâmes enfin à destination, la femme pâle avait déjà pris place sur son trône. Sous le regard indifférent de ses serviteurs alignés le long des murs, on nous conduisit jusqu'au pied de l'estrade, puis on nous força de nouveau à nous agenouiller. Pendant un long moment, elle nous observa en silence. Puis, d'un mouvement de menton étroit, elle désigna le fou. « Donnez-le au dragon, qu'il prenne la place de Teldo et que son ami ne manque pas une miette du spectacle.
« Non !»
m'écriai-je, avant qu'un coup de poing ne me jette à plat ventre sur la glace. Le fou ne dit rien tandis qu'on l'entraînait. Parvenu près des captifs enchaînés, un des gardes tira calmement son épée du fourreau et l'enfonça dans le corps d'un des malheureux. L'homme ne mourut pas tout de suite, mais il ne s'agita guère et ne poussa pas de hauts cris.
Le dragon avait déjà dû absorber la plus grande partie de son essence, et il ne lui restait plus assez de personnalité pour s'horrifier du trépas de son enveloppe physique. Il s'effondra contre la créature et glissa lentement le long de son flanc. L'espace de quelques instants, une traînée rouge ressortit vivement sur le noir de la pierre, puis, ainsi que le sable boit l'eau, la roche aspira le sang, et les écailles de la zone imprégnée gagnèrent en relief. À gestes efficaces, et avec prudence afin de ne pas toucher le dragon, deux hommes d'armes ôtèrent les fers du pauvre diable. L'un d'eux adressa un regard interrogateur à sa reine. Elle acquiesça de la tête, et à l'aide de son épée, il déboîta l'épaule du cadavre et la trancha comme s'il eût fait d'une patte de poulet. Puis, il jeta le bras à Kébal Pain Cru, sans même regarder. J'aurais dû l'imiter. Le roi des monts se jeta en avant aussi loin que sa chaîne le lui permettait, s'empara du membre mou et ensanglanté, et se mit à le dévorer aussi avidement qu'un chien, un morceau de viande fraîche. Il mastiquait bruyamment, et je me détournais, le cœur au bord des lèvres. Mais un spectacle pire encore m'attendait. Mes deux gardes affirmirent leur prise sur moi. Un troisième saisit ma queue de guerrier et me contraignit à lever la tête, tandis que ceux du fou entraînaient leur prisonnier vers le dragon. Il ne résista pas. Le visage exsangue, il donnait l'impression de ne plus ressentir ni horreur ni douleur, mais seulement la montée de la mort. On l'enchaîna au dragon, par les chevilles et les poignets. En se tenant à demi accroupi, coudes et genoux écartés, il parvenait à éviter le contact avec la pierre assoiffée, mais cette position était un supplice en elle-même, et nul ne pouvait la garder longtemps. Tôt ou tard, épuisé, il s'écroulerait contre la créature, qui boirait une part de son essence. Le fou affrontait une lente mort par forgisation. « Non, » murmurai-je, quand l'atrocité de la réalité eut pénétré mon esprit.
« Non !»
hurlai-je. Je me tournai vers la femme pâle, sans me soucier des cheveux que je laissais dans la poigne de l'homme qui me tenait.
« Demandez-moi ce que vous voulez, j'obéirai à tous vos ordres, mais relâchez-le !»
Elle se laissa aller contre ses fourrures. « Quel dommage !» Vous capitulez beaucoup trop facilement, fit ce chevalerie loin-voyant. Vous n'avez même pas attendu la démonstration. Ma foi, je ne veux pas me priver de ce plaisir.
Dret, présente-lui mon dragon.
L'intéressé s'avança en dégainant l'épée.
Non !
Vociférai-je encore en me débattant pour échapper à mes gardes, tandis que le nommé Dret plaçait la pointe de son arme dans les reins du fou et l'obligeait à se plaquer sur la sculpture. Il ne l'y tint qu'un instant. Mon ami ne cria pas. Peut-être le processus n'induisait-il pas de douleur physique. Toutefois, quand l'homme retira son épée, le fou s'écarta de la pierre aussi vivement que la main d'une escarbille brûlante, et il se laissa aller en arrière, retenu par ses chaînes, tremblant mais toujours silencieux. Je vis fugitivement sa silhouette dessinée sur la peau du dragon et s'effaçant, aspiré dans la roche en même temps que ses souvenirs et ses émotions. Qu'avait-il perdu lors de ce bref baiser de pierre? Un jour d'été de son enfance? Une conversation entre le roi subtil et humble, près du feu, dans la chambre du vieux souverain? Un moment que nous avions partagé, lui et moi, arraché à sa mémoire et disparu à jamais? Il saurait désormais que ces scènes avaient eu lieu, mais la forgisation leur ôterait toute signification. Notre amitié, l'affection que nous nous portions, se dissiperait lentement et s'évanouirait avant qu'il ne meure. Et à l'heure de son trépas, il n'aurait même plus le souvenir d'avoir été aimé pour adoucir son départ. Je levai les yeux vers la femme pâle. Je crois qu'elle buvait ma détresse autant que le dragon avait absorbé des fragments de la personnalité du fou. « Qu'attendez-vous de moi ? » demandai-je. « Quoi donc ?» Elle répondit d'un ton serein. Seulement que vous empruntiez la voie la plus facile et jouiez le rôle qui s'impose à vous au cours des jours à venir. Vous n'y aurez aucune difficulté, fit ce chevalerie. Dans la quasi-totalité des avenirs que j'ai vus, vous accédez à ma requête. Obéissez à votre prince, à Imbre, à l'Anarchesca et à moi.
trancher la tête de Glacefeu. C'est tout. Songez au bien qui découlera de ce geste. Vous ferez le bonheur d'Imbre et votre reine obtiendra l'alliance qu'elle appelle de ses vœux avec les îles d'outre-mer. Vous deviendrez un héros à leurs yeux. Devoir et la Narcheska pourront consommer l'amour qui les unit. Je ne vous impose pas d'accomplir aucun exploit, seulement d'agir dans le sens qu'espèrent nombre de vos amis.
« Ne tue pas, Glacefeu !»
lança le fou dans un chuchotement implorant. La femme pâle soupira d'un air agacé, comme si un enfant mal élevé l'avait interrompu. « Bret, il désire embrasser le dragon encore une fois. Aide-le !»«
Je vous en prie, non !»
criai-je alors que l'homme tirait lentement son épée. Je me dégageais de la poigne qui me tenait par les cheveux pour m'incliner en signe de soumission.
« Pitié, je tuerai Glacefeu, je le promets !»«
Mais naturellement, »
répondit-elle d'un ton suave, tandis que la pointe d'acier s'enfonçait dans le dos du fou. Il résista malgré le sang qui commençait à imbiber sa chemise.
« Fitz, elle détient la mère et la sœur de la Narcheska. Nous les avons vues, Fitz, elles sont fort gisées. Eliania et Péotre lui obéissent pour qu'elle mette fin à leurs tourments. »
Soudain, il poussa un cri, céda à la morsure de l'épée et s'effondra contre le dragon. Des convulsions l'agitèrent, des pieds à la tête, et il parut rester une éternité plaqué contre la pierre par l'épée du garde. Si j'avais eu les mains libres, je me serais caché les yeux. Je les fermais pour échapper à l'insupportable spectacle. Quand les cris cessèrent, je les rouvris et vis les contours argentés de mon ami dessinés sur le dragon, plus précieuse que le sang. Les expériences qui le constituaient finissaient de s'infiltrer dans le roc sans âme. Le fou s'était redressé, les muscles tendus, et tirait sur ses chaînes pour éviter tout contact avec la sculpture. Je l'entendis reprendre brusquement sa respiration et formait le vœu fervent qu'il se tue, mais il reprit.
Elle me les a montrés à titre d'exemple de ce qu'elle pouvait m'infliger. Tu ne peux pas me sauver, Fitz, mais fais que nous n'ayons pas œuvré en vain. Ne lui obéis.
Allons, encore une fois, dit la femme pâle, entre lassitude et amusement devant son entêtement. De nouveau, Drette s'avança. De nouveau l'épée, de nouveau la pression lente et implacable de la pointe. Je courbai la tête quand mon ami hurla. J'aurais voulu mourir en cet instant. C'eût été moins atroce qu'assister à son supplice, moins épouvantable qu'éprouver ce que j'éprouvais, l'horrible, l'égoïste soulagement de ne pas me trouver à sa place. Lorsque l'écho de ses cris s'éteignit, je ne levais pas les yeux. Je n'en avais pas le courage. Je ne voulais pas parler, ni à la femme pâle, ni au fou, de peur qu'il ne cherche encore à m'inciter à la résistance et ne s'attire une nouvelle sanction. Je regardais les gouttes de sueur tomber de mon visage sur la glace et s'y fondre, comme le fou se fondait dans le dragon. Bien-aimé. Je tentais de l'artiser, de lui transmettre un peu de ma vigueur, mais en vain. Ma magie erratique, empoisonnée par les corps selfies, avait encore disparu.
« Je crois vous avoir convaincu, »
déclara la femme d'un ton suave. « Mais je tiens tout de même à mettre les points sur les i. Choisissez la vie de Glacefeu ou celle de votre bien-aimé. » Je vais vous libérer et vous irez tuer le dragon. Vous accomplissez ma volonté et je vous rendrai votre ami, du moins ce qu'il en restera. Plus vite vous partirez, plus il demeurera de sa personnalité quand vous le retrouverez. Tardez et il risque fort d'être complètement forgisé, mais pas mort, je vous le promets, il ne sera pas mort. Me comprenez-vous bien? Fitz chevalerie loinvoyant, petit roi, « Assassin !» J'acquiesçais de la tête. J'avais gardé les yeux baissés, et cela me valut un coup de poing dans les côtes. Non sans mal, je redressai le cou. « Ouais, » murmurai-je, « je comprends. » Je n'osais pas regarder le fou.
« Parfait !»
Une satisfaction ardente imprégnait sa voix. Elle leva les yeux au plafond vitreux de la salle, un sourire aux lèvres.
« Voilà, Glacefeu, il comprend, il t'apportera la mort.
Elle se tourna vers mes gardes. « Faites-le sortir par la cheminée nord. Ensuite, qu'il aille son chemin. » Puis, comme si elle avait perçu ma perplexité, elle me regarda avec bienveillance. « J'ignore comment vous rejoindrez vos amis. Je sais seulement que vous y parviendrez et que vous tuerez le dragon. L'avenir s'étend désormais devant moi avec une totale limpidité. Il n'y a plus d'autre chemin. Allez, fils chevalerie, obéissez-moi et sauvez votre bien-aimé. Allez !» Je n'adressais pas un mot d'adieu au fou quand on m'emmena hors de la salle. Je craignais qu'il ne tentât d'y répondre et n'y gagnât un nouveau baiser du dragon de pierre. À vive allure, on me conduisit par le labyrinthe du repaire de la femme pâle, puis je gravis un escalier interminable qui déboucha enfin dans une caverne qui s'ouvrait entre le roc et le glacier. Pendant que deux des gardes me tenaient agenouillé, le troisième déblaya l'amoncellement de neige soufflé par le vent et durci qui en bloquait l'ouverture. Puis, ils me relevèrent et me jetèrent dehors.